Preview Pistons Cavs.
Pistons Cavs. Pistons premier de conf. Cavs quatrième de conf. Deux équipes qui ont passé leur premier tour comme des lettres à la poste, au calme, tranquille, tranquille ou bilou. On y est, voilà.
Zéro stress.
Oh la vache. 4-3, 4-3. Chacun ses frayeurs, pas les mêmes.
Oui.
Pas les mêmes frayeurs.
Pas les mêmes leads.
On va en parler dans les quand on va faire les dynamiques. Mais c'est des configurations de séries de premier tour complètement différentes.
Bien sûr.
Mais qui se sont toutes les deux finies par des 4-3. Deux équipes qui ont géré à la maison des Game 7. Voilà.
Le terme géré est le bon.
Géré, voilà.
C'est bien
les Pistons,
fait.
Ils ont géré, moi, je trouve, leur géré. Game 7.
Les Cavs se sont
les Cavs, la deuxième mi-temps, bien. Ouais, la première mi-temps, t'es là, tu fais... Oui, on y est. Mais ils y étaient, ils ont fait le taf.
Tout à fait. Une chose est sûre et certaine sur cette série, c'est qu'on s'attendait à beaucoup de choses au premier tour. Et il y a beaucoup de scepticisme quand on voit ce qui s'est passé. La plupart des gens qui voient les Pistons et les Cavs, tu regardes le premier tour, il y a des gens qui sont en mode « Oh, on s'attendait à mieux
de la
part des deux franchises. »
Ah, ça, c'est sûr qu'on a toujours tendance à voir le négatif, les défauts et tout. Là, c'est pas ce qui manque dans ce premier tour des Pistons ou des Cavs.
Absolument.
Il y a aussi des éléments positifs, on va en parler.
On va en parler à fond.
Puis on va essayer de se projeter un peu dans cette série parce que mine de rien, là... On a ce qui était prévu en termes de favoris. Le chemin était tortueux.
Rempli d'orties.
Voilà. Mais on a ce qui était prévu. Je pense qu'il y a quand même pas mal de brackets qui t'avaient mis un Pistons Cavs en demi de conf.
Tout à fait.
Tu vois, pour
ça,
le coup.
C'était sûr. On aura un ticket en finale de conf pour une de ces deux équipes. Est-ce que ce sera Cleveland avec les transferts qui ont eu lieu en milieu de saison? Est-ce que c'est les Pistons qui se sont bien rassurés sur la fin de série? On va voir. Avant ça. Petit point agenda, je rappelle que cette série démarrera demain dans la nuit de mardi à mercredi.
De mardi à mercredi, tout à fait.
Et je continue sur les cadeaux. Qu'est-ce que vous faites samedi à 21h? C'est un Game 3.
Ah, oh, c'est bien.
Qui a lieu samedi à 21h à Cleveland. Y aura-t-il 2-0? Si oui, pour qui? Ou un partout? On aura ça à suivre. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la preview précédente. Deux matchs à horaire français samedi. Cavs Pistons à Cleveland Game 3 dimanche Knicks Sixers.
Vraiment c'est bien parce que évidemment en termes de nom de franchise le Knicks Sixers et tout machin, moi cette série là je suis grave chaud. Non mais c'est pas pareil quoi, tu vois, c'est pas une historiquement c'est pas la même rivalité et tout machin. Par contre le côté, on va en parler, alors là il y a une opposition de style quand même assez énorme
tout à fait.
Qui devrait nous générer des matchs assez atypiques. On a deux coachs, on va en parler.
Faites-en ce que vous voulez, mais il y en a un qui...
Il y en a deux.
Tout à fait.
Il y en a un chacun.
Techniquement, chacun un entraîneur.
Oh la vache.
Après, on sait que, bah, t'as raison de le mentionner tout de suite, c'est un des scénarios quand même de cette série, c'est le JB Bickerstaff Gate. Hein. C'est quand même JB Bickerstaff qui retrouve son ancienne franchise.
Le JB Bickerstaffico.
Ico, tout à fait. Ouais. Qui sera peut-être un gate.
C'est ça le gate, je ne connaissais pas, je me demandais ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qu'il a fait encore?
Ouais, pas encore, on verra.
Mais oui, JB Bickerstaff qui a été le coach notamment de ces Cavs résurgents avec Darius Garland,
oui.
Evan Mobley.
Avant de donner sa place à Kenny Atkinson, ouais, tout à fait.
Et de passer désormais à Détroit où il est le meilleur bilan.
Il refait le même taf, ouais, exactement. Non,
très,
non, tout
très
à fait.
On va faire la dynamique des équipes. On va faire le point tactico-technique, le joueur à suivre et le pronostico. On démarre tout de suite avec les dynamiques. Tu en as très bien parlé. Il y a tellement de choses à dire. Par qui tu as envie de commencer, Alex?
Le
numéro de la conférence Est.
Au moment où on fait cette preview, les deux équipes là viennent de la soirée dernière de faire des Game 7. Donc on va commencer. T'as raison, par le numéro 1, les Pistons. Grosse frayeur.
Ah oui.
Grosse frayeur. On va en parler pour les Cavs, vraiment la physionomie est complètement différente. Les Pistons étaient menés 3-1. Après deux matchs à Orlando, nul à chier. Nul. Beaucoup de gens les voyaient se faire éliminer, concrètement, par le Magic, en disant « Ah ouais, le Magic, c'est un faux huitième et tout. » Non, non, ce qui est vrai, ce qui est plutôt vrai, hein, franchement et tout. Ils sont dangereux, oh là là, ils coupent Jalen Duren du ballon et il y avait un plan tactique du Magic qui était pas loin de fonctionner. Et puis il s'est passé un truc à la mi-temps du Game 6. Peut-être qu'il faut en faire une série Netflix ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas il s'est passé quelque chose dans le vestiaire des Pistons à la mi-temps du Game 6.
C'est sûr.
C'est d'accord. C'est pas la même équipe qui est revenue sur le terrain en deuxième mi-temps du Game 6 à Orlando.
Massacre de la deuxième mi-temps.
Ils étaient menés de 20 et quelques points. Ils ont terrassé, et défensivement et offensivement, ils ont terrassé Orlando. Et après, ils ont quand même, faut le dire, bien géré ce Game 7. Ils étaient à la hauteur de l'événement. Ils étaient à la maison, devant leur public, qui poussait. Kate Cunningham, il a pris les choses en main. Tobias Harris, l'autre, il a fait, attends. J'allais dire Paolo Commandant, parce que s'il y a bien un mec du Magic qui fait son Game 7, c'est Paolo.
Ouais. Il, non. Sur les critiques de Paolo Banchero, je pense
bien sûr. Mais par contre, putain, il lui a tenu tête de ouf, hein.
Ah bah
Tobias
oui.
Harris, hein.
Bah oui,
poste pour poste.
Ah bah, série formidable de Tobias Harris.
Ouais, hein. Série formidable de Tobias Harris. Heureusement pour les Pistons, parce que c'est pas le cas de tous les compères et tout, on va en reparler.
Tout à fait. Dennis Jenkins qui sort de sa boîte au Game 7.
Au Game 7, Dennis Jenkins qui sort de sa boîte, dans un peu dans la lignée de sa régulière. C'est-à-dire, c'est un type, on le connaissait pas en septembre dernier, et puis en fait, enfin, ou peu en tout cas. Tout et puis, bah, en fait, il est là, il est capable de sortir sa boîte, il est un peu streaky, mais il est fort.
Ah oui.
Il est fort, il a du talent. Hein.
La série avait mal démarré pour lui, mais au moment où il le faut, il sort son meilleur jeu. C'est
et donc, Détroit, en ayant retrouvé au Game 6 des très grosses bases défensives.
Les meilleures défenses de la NBA.
Ouais. Après, face à une attaque, on va en reparler parce que là, ça va être une autre attaque qu'il va falloir défendre quand même. Quand même. attention quand même. Là, en même temps, une meilleure attaque que le Orlando Magic. Parmi les équipes de playoffs, il doit y avoir à peu près 15 équipes sur les 16. Hein non. Est-ce qu'il y a une équipe de playoff qui attaque moins bien que le Magic?
Ah,
je
non,
ne crois pas.
Ah, vous pouvez débattre si vous voulez, mais franchement,
qui
c'est la
non,
couronne.
Même non, les Hawks, c'est mieux. Hein.
Non, bah,
largement.
Ça va.
C'est... Non, mais je sais pas, même les Suns, c'est mieux.
Non, non.
Tu vois?
Non, non, je pense que
même Houston, c'est mieux, non?
J'allais dire Houston. Il y a des gens qui ont bien, bien saigné des yeux, mais les ophtalmos sont d'accord. On va élever d'un niveau de jeu entre l'attaque d'Orlando et celle de Cleveland. Ça, c'est un.
Et donc, la dynamique, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire quand même qu'elle est bonne.
Elle est bonne, ils se sont rassurés.
Ils sont sur 3 victoires d'affilée, du coup.
Oui.
Du coup, c'est quand même bien.
Il y a 3 victoires consécutives. Il y a un Kate Cunningham, excusez-moi du coup, qui a envoyé 45 points, puis 32, puis 32. Le mec a mis 103 points, ou 105 points, ou 110 points en 3 matchs éliminatoires.
Il est en 32,5, quasiment 6 rebonds, 7 passes.
Tout à fait.
Avec 46% au tir et presque 40% de loin.
Non,
hein. Kate Cunningham, il a fait une série là.
Deux monstres. Il y a les histoires de pneumothorax, il a dit pneurotoquoi. Il n'y a pas de problème. Je vais vous terminer, je vais vous salir à mon rythme, toujours, avec des excellents choix. Il a été clairement le meilleur joueur de cette série. Et il aura là aussi un gros challenge. Mais c'est vrai que Détroit, je suis d'accord avec ce que tu dis.
La dynamique, c'est plutôt bon.
Il y a une dynamique. On a
un beau momentum.
C'est ça, c'est le momentum. On a eu grosse frayeur. Et là, on se retrouve avec un petit peu plus de confiance. On a pu revoir aussi du Duncan Robinson et du Oscar Thompson trouver leur place. L'incertitude, en fait, mais pas physique. Parce que quand je regarde l'infirmerie, je crois que Détroit, tu me dis, il n'y a pas grand chose à regarder.
Je vais vérifier, mais
non,
pour moi, il n'y a pas d'absence.
Elle est mentale chez Jalen Duren parce qu'on a eu un premier tour vraiment très compliqué.
Il y a Kevin Werther qui a un petit quelque chose, un petit tight.
Oui, bah voilà.
Et un petit... Et je regarde vite fait pendant qu'on y est côté Cleveland. Putain, je suis bête. Côté Cleveland, je crois que ça va aussi. Hein.
Ça va aussi. Voilà. Vraiment, on n'a pas de problème de santé. On touche du bois.
Infirmerie vite. Donc vraiment, on est sur des demi de conf où il y a tout le monde là à l'est. Hein.
Détroit à l'avantage du terrain. Détroit va devoir faire le boulot tout de suite dès ce mardi soir à domicile.
Ah oui, oui.
Dans la nuit de mardi à mercredi. Dynamique, on est bien. Et pour finir, évidemment, cerise sur le McDo. Les Pistons, après quoi 19 ans, non, 18 ans, j'en avais parlé dans la café, là,
la
18
conf.
Ans sans remporter un match de playoff à domicile ou passer un tour, ça y est, les Pistons enlèvent cette stat. Hein. On est en demi, on était numéro 1, il n'y a pas eu de choke, il y a eu un 3-1 lead remonté.
C'est pas passé loin, mais le boulot a été fait.
Voilà, merci. Merci.
Donc bravo à eux, ouais. Très beau momentum. Maintenant en face, tu as une équipe, on va parler de leur momentum, leur dynamique et tout, qui a plus de stars.
Oui, sur le papier.
Sur le papier, je parle du papier, quoi. Je veux dire, là, t'as une vraie grosse star côté Détroit, Kate Cunningham, et après, t'as des bons gros des deuxième, lieutenant, troisième option, des lieutenants, on a vu, donc Jalen Duren, on va voir, mais Tobias Harris ou quoi. Là, côté Cavs, t'as Donovan Mitchell, qui est une star. T'as James Harden, qui est une star. T'as Evan Mobley, qui est un ancien Deepoy, quand même. Et t'as Jarrett Allen qui a déjà été All-Star et qui a envoyé par exemple pour le coup un Game 7, l'autre.
7 de qualité, tout
ouais,
à fait.
Ouais, il est arrivé, il a fait attends, c'est bon.
Oui.
Genre je vais prendre 19 ou 18 rebonds.
Oui.
Ça va faire du bien à l'équipe. Effectivement, ça fait du bien.
Et t'as un mec en sortie de banc qui a fait les beaux jours de Détroit l'année dernière, Dennis Schroeder, qui a pas la moitié d'une expérience.
C'est vrai.
On peut aimer ou pas le joueur. Il avait été formidable à Détroit l'an dernier. Désormais, il est dans le camp d'en face.
Il est dans le camp d'en face. D'ailleurs,
il
bon après.
Il est arrivé à certains moments.
Exactement. On peut discuter de l'utilisation des rotations de la part de Kenny Atkinson, on peut en discuter. Oui, oui, on peut. En revanche, il y a du choix.
Ah oui, oui.
T'as parlé de Dennis Schroeder, il y a Jalen Tyson qui peut sortir du banc. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as Sam Merrill, moi j'aime bien Sam Merrill. Après, ça dépend des situations dans lesquelles on le met. Dean Wade, il a fait des choses pas inintéressantes. Enfin, il a été titulaire aussi pas mal, mais bon, voilà. En gros, je dirais que plus de stars et plus de profondeur aussi côté Cleveland, un petit peu, je dirais.
Oui, tout à fait. Et j'allais dire sur les dynamiques.
Vas-y, dynamique.
Il y a quelques derniers éléments à souligner, en tout cas moi que j'avais noté. Le premier, c'est que côté Cleveland, on s'est fait peur, certes, mais ils étaient en droit de se dire, bon, on avait plutôt bien remonté le Game 6 et il y a eu un shoot extraordinaire de RJ Barrett qui est entré, qui a forcé un Game 7. Cleveland aurait pu finir le boulot. Tu es sorti aussi en 7 matchs avec deux très bons premiers matchs de Donovan Mitchell, mais une série off de Spida.
Série compliquée. Hein.
Série compliquée pour Donovan Mitchell, il faut le dire. Et puis, certains garçons qui ont été un peu poussés dans leur retranchement et qui ont répondu. Très bon Evan Mobley après les critiques qu'on a fait au bout de 4 matchs. Mm-hmm. Jarrett Allen qui a fait un excellent Game 7 et qui a pu aussi exister. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi sur cette série, c'est qu'on voit deux effectifs qui ont beaucoup approuvé sur la demi-finale. Et on a vu des éléments, Alex, sur le premier tour où on se posait des questions avant le premier tour sur notamment le playmaking des Pistons derrière Cade. On se posait des questions sur la capacité des Cavs à vraiment se défaire en tant que favori d'une franchise en face. Beaucoup de doutes ont été justifiés sur le premier tour au sein de la planète basket. Hein. Beaucoup de gens ont dit, regardez, on en parlait il y a deux
semaines. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas trop de surprises de la part de ces deux équipes. Leurs points faibles sont là, leurs points forts sont là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Cleveland a galéré différemment que les Pistons. Ils n'étaient pas menés 3-1, il y a eu 2-2. Cleveland a mené 3-2, comme tu l'as dit, le shoot d'RJ Barrett, tout ça. Cleveland a galéré face à une très bonne équipe.
Bien sûr.
Genre là, on verra quand est-ce qu'on a le temps de débriefer un peu. Mais la saison des Raptors...
Non, c'est formidable.
Dis donc.
C'est une vraie oui.
Très bonne équipe. Très bonne équipe, très intéressante, équipe tactique qui a fait sans Emmanuel Quickly, hein, il faut bien le préciser, donc quand même une arme offensive sérieuse qui a fait chier les Cavaliers, qui les a poussés. Si Donovan Mitchell fait pas sa série, il y a aussi des raisons.
Oui, tout à fait.
Il y a des raisons. Il a été bien défendu, il a été bien emmerdé et tout. Une équipe qui s'est battue, une équipe avec des athlètes, une équipe avec un leader, je veux dire. Cleveland gagne sa série. Le meilleur joueur de la série n'est pas un joueur de Cleveland. Non. C'est Scottie Barnes.
C'est Scottie Barnes, ça fait.
Je croyais que t'hésitais, pardon.
Non, en fait, j'allais te poser la question. Qui, selon toi, est le meilleur joueur de Cleveland sur le premier tour?
C'est pas facile à déterminer.
C'est ça.
Non, mais je suis d'accord. Je dirais.
Il y a eu du très bon Harden. Il y a eu
peut-être
bon
James Harden, quand même.
Ouais, sur la.
Parce que vraiment, j'aime pas la série de Donovan Mitchell. J'ai vraiment du mal. Je pense que je mettrais James Harden.
Ah oui, j'ai Harden.
Je dirais Harden.
Joli choix de transfert.
Ouais. Et mais il n'est pas le meilleur joueur de la série. Le meilleur joueur de la série, c'est Scottie Barnes.
Tout à fait.
C'est Scottie Barnes. Et attention, parce que tu as en face de toi une équipe, c'est pas la même équipe, hein, attention, mais une équipe qui peut, ça va quand même leur rappeler des souvenirs, hein. Jouer dur, défendre dur, avec des ailiers et des intérieurs qui vont te rentrer dans la bouche, et un immense talent autour duquel beaucoup de choses tournent. Mm-hmm. C'est pas le même genre de talent. Hein. Kate Cunningham est grave capable de défendre, mais pas au même niveau que Scottie Barnes. Et Scottie Barnes est grave capable d'attaquer, mais pas au même niveau que Kate Cunningham. Faut quand même pas déconner. Mais on a un peu de ça quand même. Donc, ça peut être à noter dans la dynamique de Cleveland. À eux aussi d'exploiter la palette et la variété de solutions qu'ils ont face à ce genre d'équipe qui en a moins, mais qui est une très bonne équipe. Les Pistons, encore meilleurs que les Raptors, hein, pour moi, évidemment. Donc voilà, dans leur dynamique, il y a ça de positif à retenir, c'est qu'ils ont su, au final, comme tu le dis, là, tirer leur épingle du jeu dans les moments où il fallait.
Tout à fait, deux équipes qui sont très contentes d'être en demi et de s'être extirpées de pièges. Vrai piège sur le premier tour entre Orlando et Toronto. On va faire le point tactico.
Ouais, on fait le point tactico.
On a parlé de tout, des blessures, des machins, des trucs. Point tactico-technique dans cette section. On sort le hashtag Dedesh et on va justement dans les bureaux de JB, Pickerstaff et Kenny Atkinson. Quel est le point tactico, Alex, que tu vas surveiller sur la série?
T'as un gros sujet côté Cavs. Un sujet côté Cavs. Pas le seul, hein. T'en as plusieurs. Tu vas te faire rentrer dedans, tout ça, machin. Mais t'as un gros sujet... C'est, t'as quand même envie d'avoir le plus régulièrement possible Harden et Mitchell, ou Harden ou Mitchell, mais Harden et Mitchell ont pas mal de minutes ensemble, c'est intéressant pour les Cavs, tu as envie de les avoir sur le terrain. Problème, c'est qu'il y a Cade Cunningham aussi sur le terrain. Autre problème, c'est t'as pas envie d'avoir Harden ou Mitchell sur Kate Cunningham en premier rideau, t'as pas trop envie, il y a des risques de faute, il y a des risques de... c'est pas des vrais défenseurs, enfin voilà. Et donc t'as une réflexion du côté de Kenny Atkinson et de son staff. Lequel de Harden et de Mitchell t'as envie de planquer sur Oscar Thompson?
C'est sûr.
En lui disant, mec, genre, tu, en lui disant, mec, fais attention parce que l'autre, faut vraiment faire les écrans de retard, t'as pas envie qu'il arrive lancer au rebond, par contre, s'il doit shooter, il shoot, enfin, laisse-le presque, fais pas de faute sur lui, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, t'as envie de te dire, bah, Harden, ça peut être bien parce qu'après, avec son gros corps, il peut faire bien écran au rebond et tout, il est un peu meilleur que Donovan Mitchell là-dessus. Oui. Donovan Mitchell, qui, on le rappelle, genre, est un surathlète absolument incroyable, mais genre, il est à peine plus grand que moi, hein. Vite fait, hein.
Ouais, vite fait.
Vite fait, vraiment, hein. C'est pas des conneries, hein, les gens. Hein. Genre, il doit faire 1m83, quoi, le mec.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, hein.
Je te regarde comme ça.
Ouais, ouais. Alors, bon, par contre, attention, il a des épaules comme ça, puis il est mollet. Enfin, voilà.
Mollet au
l'athlète,
secours.
Ouais, au secours. Mais, je veux dire, du coup, c'est quand même un sujet face à. Parce que si Donovan Mitchell est un athlète, bon, Oscar Thompson, bonjour. Donc, t'as ce sujet-là, mais donc t'as qu'une seule place pour planquer un mec, quoi. Tu vas pas planquer Harden et Mitchell sur Oscar Thompson. Donc. Tu as une réflexion aux côtés de Kenny Atkinson et de son staff. Quand tu as Harden et Mitchell sur le terrain ensemble, c'est souhaitable de les avoir quand même dans les moments importants, dans les débuts de match. Enfin bon, voilà, vous voyez les rotations des Cavs. Comment tu organises ta défense? Sachant que Détroit va avoir ses points forts là. Même Danis Jenkins, tu vois, genre il peut te prendre feu et tout machin. Ça peut te saouler assez vite. Donc, sans parler du cas Cade Cunningham. Donc, il y a un vrai sujet. De comment tu organises ta défense pour pas que ce soit à Mobley et à Allen de tout le temps devoir boucher des trous, même si ils sont là aussi pour ça et tout. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des options à trouver? Qui tu mets au poste 3? C'est qui? C'est Struss? C'est Jalen Tyson? C'est Dean Wade? Lequel tu mets? Lequel est le plus adapté à ce genre de défis là qui vont arriver? Et surtout, qu'est-ce que tu demandes à tes mecs de faire? C'est-à-dire que t'en planques un sur Ossard et l'autre tu le planques sur qui? Sur Duncan Robinson, tu vois, et tu dis par contre lui il faut pas le lâcher, donc c'est fatigant, c'est dans les écrans, mais Tobias Harris, tu vois, c'est compliqué en fait cette affaire. Donc il y a un vrai sujet. Si t'as envie de pouvoir exploiter à fond ton attaque avec deux super têtes, deux super ball handlers, ce qui peut être un sujet à défendre pour les Pistons, du coup, hein, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de poser des problèmes à l'adversaire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu t'en crées un pour toi. Comment tu gères? Qu'est-ce que tu fais? Lequel des deux tu mets sur Oscar Thompson? Moi, j'avoue que j'aurais plus tendance à y mettre Harden, perso. Okay. Et puis bah tant pis, Donovan Mitchell, on voit où on peut te mettre, vas-y, suis-moi Duncan Robinson dans les écrans.
Peut-être.
J'en sais rien, un truc comme ça. Mais parce que Harden suivre un gars dans les écrans, je sais pas, je...
Non, éventuellement j'allais te suggérer...
Je suis pas sûr de ça.
Tobias Harris aime bien parfois jouer mid-post et tu sais avoir son ballon et bumper.
Ah,
et
tu mets Harden dessus.
Est assez bon pour contenir, je trouve, défensivement.
Après, il est vraiment plus petit, puis Harris, je sais pas, Harris est un joueur intelligent. Harris, il va dire, attendez, écartez-vous là.
Oui.
Je vais le jouer.
Et il sort d'une série exceptionnelle.
Il est en forme en plus. Il est en confiance. Donc, mais voilà. Donc, je voulais insister là-dessus parce que le back court des Cavs est un sujet défensif. Il l'est. Et là, il va l'être encore plus, à mon avis, dans cette série contre les Pistons.
Oui.
Voilà.
C'est pas les mêmes joueurs capables de punir offensivement. Avec tout l'amour qu'on a pour RJ Barrett et Scottie Barnes, Cade, déjà, ça va être une affaire à devoir gérer. Et si Tobias est en forme, et si ça continue aussi à retrouver la forme pour Duncan Robinson, enfin ouais, c'est chaud.
C'est différent.
C'est chaud, c'est chaud.
Donc voilà, c'est un vrai sujet. Je suis très curieux de voir dès le premier match. Là, je vais regarder un peu, genre, qui est sur qui, tu vois.
Oula.
Qui est sur qui, et quand ça switch, si ça switch, oui. Comment ils gèrent leur truc.
Absolument.
Voilà. Bastien, t'as quoi?
On va parler de playmaking, forcément. Et on va parler de la différence de niveau de playmaking entre ces deux franchises. Et si c'est un écart très très élevé auquel cas la série peut être expéditive, ou c'est un écart un petit peu réduit, à ce moment-là on pourrait avoir une série serrée. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le papier, Détroit, on l'a dit avant que les playoffs démarrent, on avait des incertitudes sur leur attaque et la capacité à playmaker hors Cade Cunningham. On adore la défense d'Orlando, mm-hmm, qui est meilleure sur le papier que celle des Cavs, c'est indéniable, notamment, oui, sur le secteur extérieur,
oui,
grosse différence là, mais on a été globalement très déçus.
face à cette question de playmaking là des Pistons en dehors de Kate Cunningham. Ça a été difficile, bravo à Tobias Harris d'avoir aidé là-dessus. On n'a pas vu Jaren Duren exister alors que sur la saison régulière il avait montré 2-3 choses balle en main, et Dennis Jenkins sort de sa boîte à la fin de la série, mais ça a été compliqué. Tu sais, on a même eu des mentions Caris LeVert en plein milieu de la série, on se disait ah tiens il est encore vivant, on a parlé de résurrection comme quoi il sortait d'outre-tombe, mais au global tu ne sors pas de cette série de premier tour côté Détroit en étant rassuré sur le playmaking.
Non, non.
Donc sur le papier pur, Cade est extraordinaire, est à un très bon niveau, il va devoir encore être très très fort. Mais en face, c'est une équipe qui punit bien mieux que Orlando. Excusez-moi du peu. Là, en playmaking, c'est pas un gouffre, c'est l'océan Pacifique.
C'est l'océan Pacifique, voilà.
Tu as Donovan Mitchell, James Harden, et en backup, Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, qui l'année dernière, à Détroit,
même
est énorme.
Des Mobley.
Absolument.
Et tu vois, genre, laisse tomber. Genre, le cinquième playmaker des Cavs, il est numéro 1 au Magic.
C'est ça.
Il a tous les ballons, le mec.
Il est avec le Magic, tout à fait. Et donc, c'est vrai que.
Non, j'exagère, on est vache avec Banchero. Il a vraiment fait sa série balle en main. Mais vous voyez ce qu'on veut dire.
Mais il y a un écart énorme.
Non, il y a un écart de ouf.
Sur le papier, Cleveland a des clairs meilleurs playmakers que ceux de Détroit. Il y a une plus grande variété, une capacité à puiser dans son banc, etc. On l'a vu quand Schroeder a bien aidé, notamment sur le Money Time du Game 5 à domicile. 5, Cleveland, c'est ça. Où il a été très fort. Pour autant, Cleveland, on l'a vu, a eu des difficultés au premier tour.
Oui.
Affronter une très bonne défense avec un bon premier rideau, et Détroit est une équipe qui est capable de bien défendre premier rideau avec des Oscar Thompson, avec des Cade, et quand tu as passé l'épaule derrière, t'as des tueurs à gages comme
Stewart, Jalen Duren et tout
qui viennent bien contrer. Donc sur le papier, le playmaking de Cleveland doit faire la différence par rapport à celui de Détroit.
Oui. Et donc j'attends, ils ont une meilleure attaque,
ils ont une meilleure attaque,
pas photo.
Et donc j'attends de la part de Cleveland, surtout j'attends de la part de Cleveland de montrer qu'ils peuvent bien punir cette défense de Détroit, où il va y avoir donc du muscle à l'intérieur, mais donc Harden et Mitchell vont devoir trouver des manières de encore mieux exister. Harden a pour le moment fait le boulot, Donovan Mitchell doit élever son niveau de jeu sur la demi-finale. Les Cavs s'étaient plaints, et à juste titre, que l'année dernière en demi-finale face à Indiana, ils avaient des blessés, c'était difficile. Là, on est à 100%.
Ils sont là.
Il n'y a pas d'excuse.
Tout le monde est là.
Ils ont l'expérience, l'effectif et les possessions balle en main pour pouvoir faire la différence face à une attaque de Détroit qui ne nous a pas rassurés sur ce premier tour. Et donc, est-ce que Cleveland peut faire la différence là-dessus ? Est-ce que Détroit va nous sortir des surprises ? C'est-à-dire qu'en fait, formidable, on a un Caris LeVert qui lui aussi retrouve, si je dis pas de bêtises, nos amis les Cavs et va sortir de sa boîte, ou Dennis Jenkins continue sur la lancée de son excellent Game 7. Est-ce qu'en fait Kate Cunningham est le clair meilleur garde de cette série et sur 100 possessions il est à 98 et il est indéfendable parce que la ligne extérieure de Cleveland n'arrive pas à trouver de solution?
Il va devoir beaucoup plus défendre Kate Cunningham dans cette série par
et c'est ça.
Il en est capable hein,
oui.
Mais ça sera pas aussi peinard, ça sera pas genre Jalen Suggs, tu sais quoi, il a qu'à shooter. Cool. Là, ça va être une autre affaire.
C'est compliqué. Et donc, on a vu aussi que certains péchés mignons de Cade, c'était des ballons perdus. Et on sait aussi que dans les fins de match, eh ben là, si t'avais un match qui était serré, Cleveland, en face, c'était les choix tactiques de Paolo Banchero, Jalen Suggs et Jamal Mosley, pour schématiser. Sans parfois Franz Wagner ou quoi.
Là, c'est vrai que Harden, Mitchell, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire.
Non, c'est vrai.
Et donc, du coup, sur le playmaking pur, est-ce que Détroit corrige ce qui s'est passé au premier tour et est-ce que Cleveland augmente ce qui s'est passé sur le premier ? Si c'est le cas, attention, faudra voir côté Cleveland s'ils peuvent vraiment faire la différence là-dessus, parce que c'est un des secteurs du jeu sur lequel, sur le papier, au moment où la série démarre, ils ont un énorme avantage.
Énorme avantage. Oscar Thompson va essayer de diminuer cet avantage du mieux qu'il peut en étant sur l'un des deux.
Oui.
En essayant de le couper du ballon, de le faire chier, on verra comment il gère ça.
Qu'est-ce que tu fais du deuxième ?
Le deuxième, est-ce que c'est Cade qui s'y colle ? Est-ce qu'on lui laisse Duncan Robinson faire ce qu'il peut ? Comment tu fais ? Puis attention, il y a des shooters. Non, non, c'est sûr que la défense des Pistons, qui est une des toutes bonnes de la ligue, a devant elle un sacré défi. Et c'est vrai qu'en playmaking, Cleveland semble avoir un gros avantage sur le papier au départ. Après, l'avantage que Cade Cunningham, on aime bien. C'est pas si mal comme opposition pour lui. Hein. Ils vont faire comment ?
Ah ben c'est ça. C'est comment est-ce que tu fais côté Cleveland pour défendre sur Cade ? Si ça se trouve, J.B. Kerstef, il va dire oui, on va essayer de varier Bastien. T'as entendu avec Alex ?
Ouais.
Mais le mec, littéralement, il est à 35 points. Avec
usage rate de Cade Cunningham va continuer à être élevé. Hein. Ça,
bien
on
sûr.
Est tous d'accord là-dessus.
Bien sûr. Donc bon. Playmaking pour Bibi et voir notamment comment s'occuper du backcourt de Cleveland.
Comment bien défendre dans le backcourt, ouais.
Tout à fait. Joueur à suivre. Alors là, j'ai très hâte d'entendre Alex. Quel joueur que tu vas suivre de
Jalen Duren.
Oh mon ami.
Bah mon poteau. C'est quoi cette première série là, ce premier tour là? C'est pas ouf hein. Et tu sais quoi, les stats font limite, sont limite flatteuses. On regardait avec Bastien, il est à 10,5 points, 9,5 rebonds. C'est limite flatteur. Pas, presque en double-double, il donne pas cette impression-là quand tu regardes
ah,
les matchs.
Non.
Et le problème qu'il y a, c'est que là, on a bien vu, le Magic avait un plan de jeu, dont une partie de ce plan de jeu défensif était de emmerder Jalen Duren, soit le couper de sa relation avec Cade qui le nourrit beaucoup en points, soit l'emmerder dès qu'il est un peu en tête de raquette, l'obliger à prendre des shoots dans des positions inconfortables, pas trop le laisser s'installer dessous, le repousser au mieux du rebond offensif et tout. Et avec Wendell Carter, le gros corps de Paolo Banchero ou des gars comme ça, ils y sont bien parvenus. En étant agressif, le Magic, une équipe physique, puissante. Même Jalen Suggs, il vient te saouler au rebond. Oui. Tu vois,
Anthony
voilà.
Black,
voilà, Anthony Black et tout.
Mmh.
Cleveland est moins dans ce délire. Déjà, les arrières et les ailiers de Cleveland sont moins athlétiques, moins puissants et tout que ceux du Magic, clairement. Et les joueurs intérieurs sont moins bully. Mmh. Par contre, ils sont largement aussi intelligents défensivement. On a quand même un ancien DPOY, il y a Jarrett Allen, il protège un cercle. Donc, et ils sont pas débiles. Et ils ont regardé les matchs, ils ont vu ce que le Magic a fait à Duren et comment il l'a fait. Ils l'ont fait en mode bully physique, mais aussi parce que le Magic était une défense intelligente et coupé du ballon. Il y a fort à parier que ces Cavs retentent un truc un peu similaire. Parce que quand tu joues les Pistons, le truc que évidemment qu'on a tous envie de dire ouais, faut essayer de contenir au mieux Cade, bon courage avec ça. En revanche, là le Magic vient de faire la démonstration de ouais, bah déjà par contre leur soi-disant deuxième arme, on peut la couper et puis on va bien voir si Tobias Harris il peut enchaîner les séries.
Et bravo, ils
comme
l'ont
ça. Ouais voilà, c'est
ouais,
ça. Il peut enchaîner, tant mieux pour eux, ils l'ont fait et tout. Mais là Cleveland, avec la longueur d'un joueur comme Evan Mobley, la longueur de Jarrett Allen, avec un Dean Wade qui va sortir un peu du banc, et puis ils vont te sortir qui d'autre dans le front de courte, ça va être un peu tout, hein, je pense, côté Cavs.
Tu peux éventuellement innover un petit peu, mais tu vas pas mettre Tom Lee.
Innover, attention, on arrive vite à Thomas Bryant quand même, donc il ne faut pas trop innover non plus, Kenny. Hein, doucement quand même, sur l'innovation. Mais en tout cas, ils ont des joueurs pour, et Cleveland a montré, même si cette année c'est moins évident, qu'ils étaient capables de bien défendre avec ce groupe là. Donc la nouvelle n'est pas forcément bonne pour Jalen Duren. Il va peut-être se faire un petit peu moins rentrer dedans, par contre il va pas avoir des situations forcément tellement plus faciles, et en plus il va avoir deux intérieurs qui sont les deux assez mobiles et les deux capables de protéger les cercles et les deux capables de venir fort au rebond, et les deux qui vont le faire bosser quand même un peu de manière différente en défense. Parce que bon, Jarrett Allen, écran, roule, attention quand même à pas trop te faire lober tout le temps. Et Mobley qui va dribbler, qui va t'éloigner un peu du cercle et tout. Donc, Jalen Duren doit
démarrer ses playoffs.
Démarrer ses playoffs. Là, j'ai laissé un petit vocal hein, sur son WhatsApp en mode « Hello Jalen, are you aware the playoff has started hein ?» Voilà. Non mais... clairement.
Frérot.
Là, faut y aller.
Oh.
Faut y aller. T'es un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. Tiens, bah, à la bonne heure. Ça peut te servir. Ça peut te servir parce que, on le sait, parmi les défauts de Mobley et Allen, il y a ce côté un peu, parfois, un petit peu dilettante, un petit peu, on se demande si le mec, il y va à fond ou pas. Là, Jalen Duren, lui, il peut. Il peut ramener, parce qu'avec ses gros muscles, ses qualités athlétiques de malade, il peut être en mode, tu sais, on va être là, lui, et d'ailleurs, aidé par Isaiah Stewart, les deux, ils peuvent, on peut se dire, attends, vas-y. Ah, ok, ils ont plus de talent, Mobley Allen, par contre, putain, ils se battent deux fois moins. C'est ça qu'on a envie de Jalen Duren. Ouais. Et on a envie aussi de... J'espère qu'il a fait de la vidéo un peu avec son staff et tout. Mais il va falloir qu'il trouve, lui aussi, les solutions pour exister plus en attaque. Ouais. Et pas juste au rebond offensif. Donc, il y a des arrières qui sont beaucoup moins forts défensivement. Viens me poser des énormes écrans pour me libérer des océans là pour Cade. Parce que James Harden et Donovan Mitchell vont pas aussi bien fighter dans les écrans que Jalen Suggs ou Black, Anthony Black ou des... impossible. Ou Desmond Bane. J'y crois pas un instant. Ils vont même moins fighter. Du coup, ton intérieur, il va devoir prendre beaucoup plus de décisions. Et bah, y a de probabilité que toi, tu sois un peu plus tranquille, que tu retrouves un peu plus tes spots, que tu aies un ou deux petits paniers faciles, un petit lob, un petit dunk, un petit machin. Donc, à lui Ah, franchement, genre, je pense que c'est le facteur X de la série.
De la série, bien sûr.
Jalen Duren.
Moi, j'avais deux.
S'il a son niveau de All-Star, c'est chiant pour les Cavs.
Bien sûr. Moi, j'avais deux dernières questions à te poser sur Jalen Duren. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du rookie de Toronto?
Colin Murray Bowles. Ouais. Et ben, il a fait du mal. Hein.
Qu'est-ce qu'il a fait comme série?
Après, c'est vraiment pas le même jeu que Duren, non. Mais oui.
Mais lorsqu'il faut être bully, provoquer du rebond offensif et aller mettre des petits points. C'est des joueurs
il y a moyen,
mais il y a de la place. Et je te disais quand on était en off, les à prendre avec des pincettes. Hein. Mais saison régulière, les deux derniers matchs de Jalen Duren sur la raquette des Cavs.
Ouais, il y a moyen.
Il y a 33 points, 16 rebonds et à 24-14. Enfin, il y a du Jalen Duren All-Star.
Il y a moyen.
Il y a de la place.
Il y a la possibilité. C'est là, j'ai dit que Mobley et Allen avaient les moyens de les saouler. Jalen Duren, c'est pas une bonne nouvelle pour Mobley et Allen. Ouais. Il a de la taille, il est costaud au rebond, il a des mains, il l'a prouvé toute la saison, et il va être servi par un des tout meilleurs playmakers actuellement,
oui.
Kate Cunningham, ce qui n'était pas le cas des intérieurs de Toronto. Enfin, tu vois, c'est différent. Exactement. Donc là, non. Jalen Duren a vraiment un rôle très important à trouver dans cette série. Ça doit être sa breakout série, quoi. On doit être là en train de se dire, hier, c'est vraiment le joueur qu'il faut en fait. Ouais. Et les Pistons, avec ça, peuvent aller en finale de conf.
Ah, tout à fait. Quelle phrase.
Monsieur Jalen Tyson, que comme tu le sais, j'adore, qui était mon Gérard d'Or sur le début de saison, une des très très belles histoires des Cavs cette année. La série du premier tour n'était pas forcément à son avantage parce que c'était une série dans laquelle Kenny Atkinson avait tenté d'autres line-up. On l'avait vu beaucoup en sortie de banc. Il a bien aidé, certes, sur la fin du game 5, pareil, avec du gros 3 dans le corner. Mais c'est pas une série sur laquelle on avait besoin, notamment d'un gars comme lui dans son profil, c'est-à-dire un mec qui est vraiment capable de coller à la culotte d'un extérieur physique.
Tu veux dire
important.
Que là, il y a un petit rôle à trouver là ?
Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais voir Jalen Tyson, qui a pu montrer, pareil en saison régulière, que lorsqu'il y avait des match-up contre Kate Cunningham, il a le corps pour.
Oui.
Parce que Kate Cunningham, c'est un big guard avec des grosses épaules.
Il a la mobilité aussi. Chier.
Et Jalen Tyson, il a la mobilité, les qualités athlétiques, le déplacement, la latéralité, etc.
Il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'habitude de l'événement.
Non, mais bon, tu sais quoi, là, mais on ne lui demande pas 150 trucs. Moi, je sais qu'offensivement, on va compter. On va pas dire hey, Jalen Tyson fait la différence. On va compter avant tout sur Spida, Harden, Mobley.
En attaque, il est surtout là pour mettre des shoots quand il est ouvert, quoi.
Exactement, pour provoquer un 2-3 rebonds offensifs, parce qu'il est bon aussi à ça si ça vient se fighter.
C'est
mais
vrai.
J'aimerais que Kenny Atkinson me montre très tôt dans la série comment je fais. Alex, il en a parlé sur le canapé. Il se disait, c'est quoi? C'est Dean Wade? C'est Max Strus? C'est qui la première couverture sur Kate Cunningham? Pour moi, ça devrait être Jalen Tyson assez vite.
Mais ton joueur à suivre, c'est Jalen Tyson ou c'est ton coach à suivre, c'est Kenny Atkinson? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu mettrais Jalen Tyson titulaire.
Moi, je n'hésiterais
pas. Avec une mission premier rideau, avoir fait de ton mieux pour rester devant.
Je ne serais
en gros,
pas
c'est ça la mission.
Si Kenny Atkinson.
Non, mais.
À l'écoute.
Je demande.
Parle si bien français.
Oui, c'est vrai.
On demande.
Bah, on peut peut-être
Kenny.
Passer un coup de fil à Vincent Collet, à Vince.
Tout à fait. Je vais séquencer Kenny. On a vu que tu étais capable par le passé d'être innovant et de faire des excellents choix. Salut Taï Jérôme l'année dernière, qui avait été une des très belles révélations du côté de Cleveland. Ça a été un petit peu plus rocky cette saison. On a beaucoup critiqué Kenny Atkinson à juste titre et sur la série de premier tour aussi. Est-ce que Kenny Atkinson est ce genre de coach capable de se dire, là, sur cette série, il n'y a pas d'histoire d'ego ou quoi que ce soit. Notre meilleur match-up défensive, c'est avoir un corps fort comme Jalen Tyson, capable de vraiment de coller à la culotte de Kate Cunningham, de savoir bien orienter vers nos Evan Mobley, nos Jarrett Allen, pour que la vie soit compliquée. Est-ce que quand on se retrouve avec des line-up, je sais pas, tu sais, on a beaucoup débattu sur le premier tour de cette utilisation du double line-up Jarrett Allen, Evan Mobley. Quand ça se passe comme ça, comment est-ce que Kate Cunningham joue? Est-ce que du coup tu vas avoir Dean Wade sur lui? Est-ce que tu as Max Strus parce que tu as besoin de 3 points, vu que peut-être pour Tyson ça ne rentre pas? Je suis fasciné. Je pense en l'état que si on devait faire, et je te pose la question, un classement des joueurs capables de défendre le mieux Kate Cunningham sur cette série, assez vite on arrive à Jalen Tyson. Je trouve que Keon Ellis est trop petit. Harden et Mitchell.
Oh, t'es dur. Keon Ellis, il peut faire le boulot aussi, je pense.
Non, il peut faire le boulot, je pense qu'il est plus petit.
Ouais, il est un peu plus petit, il est moins bully surtout.
Il est
moins
bully, c'est ça. Mais Keon Ellis, c'est un super défenseur. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même registre physique.
Non, mais il a de la longueur.
Mais il a de la longueur, il y a plein de choses. Et si ça se trouve, Kane Atkinson va dire non, en fait, on a Keon Ellis sur Kate Cunningham.
Mais donc, ça implique un changement de 5 majeurs, par
contre. Mais ça implique un changement de 5. Parce que du coup, ça veut dire que peut-être Dean Wade et Max Truss attendent sur le banc et vont devoir dégainer avec Sam Merrill.
Ouais.
C'est pas pareil. Donc, en gros, on en revient à comment défendre sur Cade, mais je surveille Jalen Tyson parce que je pense, de ce que j'ai vu sur les derniers mois, que c'est le meilleur profil capable pour faire chier un Kate Cunningham qui, même quand il a eu Anthony Black, Paolo en second rideau et machin et truc, il a envoyé 35 points de moyenne. Facile, ouais. À son rythme, smooth. Là, j'aimerais voir comment ça se passe parce que quand Cade est allé notamment punir le Magic, ce n'était pas la même protection d'Arceau et donc la capacité à pouvoir punir dans la raquette à 4-5 pieds de l'Arceau. C'est pas la même ambiance là, j'arrête Allen et Evan Mobley. Comment est-ce que tu orientes, tu vois,
ce c'est ça. L'avantage des Cavs dans leur malheur, entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas ce vrai défenseur, ces gros défenseurs extérieurs d'expérience et tout, c'est plus compliqué. Jalen Tyson est un jeune joueur. Keon Ellis, on sait pas si Kenny Atkinson a envie de lui faire confiance, on verra. Par contre, ils ont une bien meilleure raquette en termes de verticalité et de protection de cercle.
Oui, et tout à fait. Et
que sur, le Magic, je veux dire.
Bien sûr. Et sur le profil Brandon Ingram, très long, plutôt lent, pas aussi physique, hein. Dean Wade a fait un excellent travail. Mais c'était
là,
bien.
Sur Cade, c'est...
Mais sur Cade, c'est chaud.
Non, je suis d'accord, c'est trop chaud.
Donc, qu'est-ce que tu... En fait, en gros, ma question, c'est... J'ai envie de faire une rubrique 5 majeur, comme dans les 30 previews. C'est quoi ton 5 des Cavs, si
moi, je titularise Keon Ellis. Plus que Jalen Tyson, d'abord. Je commence par Keon Ellis.
Moi, je teste très bien Jalen Tyson.
Mais, en fait, le vrai truc, là, on est en train de parler de Kelly Atkinson, là, en fait. C'est un point tactico très intéressant. On est en train de parler de la construction de l'effectif par Coby Altman. Si les Cavs ne passent pas cette série, on va voir les pronostics. Je pense qu'il y a aussi une grosse remise en question sur comment tu as construit ton effectif à Cleveland. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'ils ne l'ont pas, ce défenseur extérieur qu'il faut ?
Poste 3 qui fait le.
Et le 2 ou le 3, où je m'en fous en fait, hein, tu te débrouilles. Là, ils ont tradé Garland, ils n'ont pas pris un mec défensif, ils ont pris Harden. Tu vois,
oui.
Ça a des qualités, ça a ses avantages,
mais ils avaient aussi
ça a des inconvénients.
Keon Ellis et Schroeder,
mais voilà.
Mais ils avaient
tout à fait. Mais donc là, leurs deux défenseurs extérieurs, ça n'était pas titulaire au premier tour, ok. Là, idéalement, ce qu'on est en train de dire, c'est faudrait qu'il y en ait un des deux de titulaire pour envoyer du premier rideau, essayer de tenir au mieux devant Kate Cunningham, l'orienter vers Mobley ou vers Allen, du bon côté, nanana. Bah, y a plein de choses à faire. C'est une grosse mission défensive. Hein. Ouais. C'est une très très grosse mission. Une des plus grosses missions défensives du moment. Hein.
De toutes les
genre le premier rideau sur Kate Cunningham.
C'est énorme. Hein. C'est un peu comme qui t'envoie côté sur Shea Gilgeous Alexander.
Voilà, c'est ça. On est dans ce genre de registre.
Je veux bien avoir l'avis des fans des Cavs et des Pistons, évidemment, sur à la fin de la série, qui aura eu le plus de minutes sur la match-up Kate Cunningham. Tu sais, on a beaucoup vu les minutes Rudy Gobert sur Jokic, on a vu les statistiques.
Non, mais ça va être très intéressant.
Et j'ai hâte de voir. Dites-nous qui vous avez en joueur à suivre. On va faire un prono.
Ah bah, le prono. Eh oui, on y va, c'est parti.
C'est l'heure d'annoncer l'avenir. Avant de vous dire tout ce qui va se passer et qui va aller en finale de conférence, on fait les gros rappels.
Bandeau jaune là qui s'affiche sur votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, ni à des paris sportifs et compagnie. Si vous avez plus de 18 ans, attention. Ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, même si vous pensez que Keon Ellis va museler Kate Cunningham. Doucement. C'est clair. J'adorerais.
Secours. Faites pas les bolos, comme ça on profite tous de cette demi-finale dans la joie et la bonne humeur. Alex, t'es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
J'ai besoin de savoir qui va aller en finale de conférence avec ton expertise. 3-2-1.
Cleveland. J'ai mis 4-3. Alors, je suis au courant, hein, ça finit à l'extérieur.
Tu finis à Détroit.
Oui. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un très très bon momentum pour les Pistons, là, qui viennent de gagner 3 matchs de suite et tout. J'ai l'impression que les quelques limites offensives réelles des Pistons que l'on a vues derrière Cade sont une aubaine pour les Cavs, qui n'ont pas une défense si élite que ça, mais pas si mauvaise que ça. Et à contrario, j'ai l'impression que la variété offensive et de style de jeu de star des Cavs va être un sujet pour la défense des Pistons, qui est une forte défense, mais on a vu déjà le Magic capable de leur scorer quand même pas mal dessus. Et donc j'ai un peu peur que là où les Pistons ont trouvé les ressources pour faire des stops et puis autour de Cade tu scores et tout, ça suffise pas dans certains matchs pour battre les Cavs. J'ai un peu peur pour les Pistons, parce que pour les Cavs, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça se réalise. Donc, plus de talent côté Cavs. La vraie question pour eux, elle est pour le staff, c'est comment tu fais au mieux pour contenir et faire chier Kate Cunningham côté Cavs. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, je vais regarder à fond. Est-ce que tu sors de la zone aussi de temps en temps ? On va voir Kenny Atkinson jusqu'à quel point il est, jusqu'où il est capable d'aller. Parce que je pense pas qu'il va envoyer Donovan Mitchell en mode poste pour poste pendant toute la série, tu vois. Ou alors s'il fait ça, ça va partir en couille dans les débriefs.
Dans les débriefs.
Ouais. Donc voilà.
4-3, ouais.
Moi, je vois les Cavs passer. Je mets 4-3. Oui, ils peuvent finir à l'extérieur. Je pense que les deux équipes peuvent gagner à l'extérieur. Sans problème, là. Ça va dépendre. Il y a des coups de chaud. Ça va être une série serrée. Va y avoir de l'irrégularité dans les performances de certains joueurs, et c'est justement l'équipe qui va trouver le plus de constance sur le plus de joueurs possible qui va le prendre. Et à ce jeu là je croirais plus dans les Cavs.
4-3 pour voilà. Alex, la cote elle est à 6-30 chez les copains de Unibet.
Ouais, c'est pas la cote la plus basse, hein. Il y a des cotes meilleures à prendre, enfin meilleures, plus basses en tout cas.
C'est laquelle?
Il y a la 4-3 Pistons qui est très bonne.
Ah ouais,
donc tu finis en 7, elle est à 4-10.
Okay.
Et il y a la 4-2 Cavs qui est à 4-10 aussi. Et il y a même la 4-1 Pistons qui est à 5-50. Ouais.
Ah,
elle est violente celle-là.
Ok.
Et moi je la trouve violente, non?
Ah bah oui. Moi je prends
4-2. Cavs 4-2. Donc les Cavs qui finissent chez eux.
Qui finissent chez eux, le boulot, et vont en finale de conférence. Plusieurs choses. Un. Lorsqu'on a fait les playoffs science-fiction, le fabuleux apéro avec Simon, toi et moi, Alex notamment, et je crois, je sais plus pour Simon, on verra, mais toi et moi, on était d'accord sur une chose.
Moi, j'ai mis les Cavs en finale de conf.
On avait tous les deux les Cavs en finale de conf. Ouais. On avait tous les deux une demi-finale Détroit-Cleveland, et ce n'est pas le premier tour de playoff qui me fait changer ce pronostic.
Non.
Par rapport à ce qu'on a dit.
En fait, les équipes, elles ont pas assez. Enfin, on en a parlé dans les dynamiques, mais je suis d'accord.
Détroit ne m'a pas montré, là en tout cas, qu'il y avait de quoi changer notre avis là-dessus. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, Cleveland, et je pense que les fans s'en souviennent très bien, ont encore en travers de la gorge ce qui s'est passé l'année dernière avec une formidable saison régulière, et où, oui, la demi-finale, elle est perdue contre Indiana dans des conditions dramatiques, mais les Cavs sont en forme. Les Cavs sont là. Les Cavs s'en sont sortis in extremis, il faut le dire, face à ces Raptors, mais les Cavs sont là, physiquement. Et ils s'en sont sortis alors que Donovan Mitchell n'a pas encore vraiment bien fait une série complète. Il avait très bien démarré les deux premiers matchs de la série, mais là j'attends du très gros Donovan Mitchell. Les choix qui ont été faits par Cleveland à la mi-saison sont pour cette série. Harden en autre playmaker, plus stable que Darius Garland, plus régulier dans la production. Keon Ellis et Dennis Schroeder derrière. C'est pour ce genre de série que ça fait la différence, je trouve.
Ouais, je suis d'accord.
Et de l'autre côté, Détroit, je pense que c'est typiquement le genre de série où la régulière est très belle, le comeback du premier tour est là, mais c'est cette série qui démontre précisément ce que le management doit faire cet été. On a un secteur intérieur jeune mais productif. On a une superstar. On a un groupe avec de la continuité et on a un vétéran Tobias Harris, savoir comment ça va se passer sur la prolongation. Mais on doit avoir un co-playmaker
et du shoot, plus de shoot.
Et plus de shoot. Et ça se trouve, alors malheureusement, je sais que certains ont commencé à faire les tendances, j'ai hâte de voir la tête d'Alex dans quelques secondes. Certains ont mentionné monsieur Devin Booker du côté de Détroit, et je crois que votre proprio il a dit il est juste intransférable. Merci,
oui,
au revoir.
Oui, proprio, lol.
Mais bon, tu vois, ça fait pas.
Mais oui, Devin Booker a priori est pas super transférable. Hein. Il serait super. Là.
Alors là, par contre, Devin Booker à Détroit, à côté.
Ça me fait chier de le dire, mais je reconnais que ça serait pas mal là-bas.
Moi, c'est un de mes scénarios rêvés. Et donc, je pense que c'est la série où Détroit se rend compte du travail qu'il y a encore à faire. On avait eu des rumeurs sur Lauri Markkanen, sur d'autres playmakers, sur quelqu'un vraiment de niveau quasi très très haut de star aux côtés de Kate Cunningham. Ça va se sentir cette série. Et je crois que c'est la série dans laquelle on va se dire les choix étaient culottés à la trade deadline, mais ils se confirment pour les Cavs qui vont en finale de conférence.
Donc tous les deux on a Cavs.
Eh oui, les fans des Pistons, dites-nous comment est-ce que Détroit va sortir de cette série en savatant
les Cavs.
Tous
les deux on a Knicks, donc on a tous les deux Knicks Cavs.
Ouais. Eh ben le Sixers Pistons va être monumental.
Non mais Sixers Pistons ça peut être rigolo, Knicks Cavs ça peut être cool aussi. Oh, hein.
Très très hâte. En tout cas, on le sait, les playoffs réservent toujours des grandes surprises et parfois des absences et parfois des blessures et des contre-performances. Nous on continuera à débriefer dans tous les sens. Dites-nous. Vous en pronostic ce que vous pensez. C'est la fin des 4 previews en 3 jours. Hein. Ça y est, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne.
4 previews, 3 jours.
Absolument. Série qui démarre donc demain soir à Détroit. Et puis, ma foi, on vous fait des gros bisous et on se retrouve pour les débriefs dans la semaine.
Ouais. Ciao tout le monde.
Des bisous, bonne série.
Ciao.
Ciao.
Ciao.